La Parole des Contes, une émission proposée par Janine Rabat, mise en musique Olivier Rabat.
Le petit Toupidec. Les Toupidecs sont de petits êtres qui ressemblent à des lutins qui vivent au Groenland, le pays des Esquimaux. Mais ils ne vivent pas avec les Esquimaux. Ils vivent sur les glaces de la banquise, dans des grottes creusées dans leurs glaciers. Il y a toutes sortes de Toupidecs, des gentils, des méchants, des gais, des tristes, des généreux, des jaloux, des sages, des farceurs. Les Toupidecs sont au service des sorciers et chaque Toupidec a un genre de fonction bien déterminé. Par exemple, le Toupidec de la chasse à la baleine, le Toupidec du voyage en traîneau, le Toupidec de la cuisine. Le sorcier les envoie chez les Esquimaux pour les récompenser, ou pour les taquiner, ou pour les punir. Pour cela, il les transforme en objets, n'importe quel objet. Par exemple, il envoie le Toupidec de la chasse à la baleine, transformé en harpon, et toutes les fois que l'Esquimau le lance, le harpon manque son but. Par exemple, il envoie le Toupidec du voyage en traîneau transformé en fouet. Et toutes les fois que l'Esquimau veut frapper le chien, le fouet dévie et frappe autre chose. Les Esquimaux n'aiment pas trop les Toupidecs. Ils les redoutent même. Mais les Esquimaux ont un moyen de défense. Si un Esquimau s'aperçoit qu'un objet est un Toupidec transformé, par exemple une lanière de cuir, il n'a qu'à dire très vite les paroles magiques. Toupidec, lanière de cuir, lanière de cuir, Toupidec. Si tu es un Toupidec, cesse d'être un Toupidec. Retourne au pays des Toupidecs. Et le Toupidec doit retourner dans la grotte du sorcier. Il peut recommencer sous une autre forme, sauf s'il s'est transformé en être humain. Car s'il est reconnu, il devient Toupidec errant, condamné à errer sur les glaces, sans retourner ni parmi son peuple, ni parmi les hommes. C'est pourquoi les Toupidecs se changent plutôt en lampe, en aviron, parfois en chien, même en phoque, mais jamais en homme, jamais en enfant. Parmi le peuple des Toupidecs, il y avait un très gentil Toupidec farceur. Il passait son temps à taquiner les Esquimaux. Par exemple, il se changeait en capuche et tombait toujours sur le nez de son propriétaire. Ou bien, il devenait une cuillère qui reculait lorsque l'Esquimau la portait à sa bouche. Un jour, ce petit Toupidec alla trouver le sorcier et dit « Je veux vivre parmi les hommes. » Le sorcier en fut éberlué, vraiment éberlué. Le petit Toupidec supplia le sorcier. Le sorcier lui dit « Mais les hommes te renverront avec les paroles magiques. » Le Toupidec insista « Je ne ferai plus de farce. Je resterai cet objet sagement, bien sagement. » Le Toupidec fut changé en cuillère de bois. Pendant le souper, le petit Toupidec servit le bouillon de foie de morue, très convenablement. Mais, à la fin du repas, il se laissa glisser dans le liquide. Une fois, deux fois, trois fois. Alors la femme comprit et prononça les paroles magiques. « Toupidec, cuillère de bois, cuillère de bois, Toupidec. Si tu es un Toupidec, cesse d'être un Toupidec. Retourne au pays des Toupidecs. » Et le Toupidec retourna au pays des Toupidecs. Il alla trouver le sorcier et le convainquit de le laisser essayer encore une fois. Le Toupidec fut changé en chien de traîneau. Au début, il garda bien sa place dans l'attelage. Puis, une fois il ralentit, une fois il accéléra, une fois il zigzaga et le traîneau fit une grande embardée. Puis une fois, quand le traîneau filait à vive allure, il s'arrêta et tous roulèrent dans la neige. Le maître eut un soupçon et dit « Toupidec, chien de traîneau, Toupidec, si tu es un Toupidec, cesse d'être un Toupidec, retourne au pays des Toupidecs. » Et le Toupidec retourna au pays des Toupidecs. Le Toupidec resta quelques jours dans sa grotte, puis retourna voir le sorcier et lui dit « Changez-moi en petit garçon esquimau, je serai sage. » Le sorcier refusa. Il lui redit le risque. « Si tu es reconnu, tu deviens un Toupidec condamné à errer sur les glaces, pour toujours. » Le Toupidec insista, supplia. Le sorcier résista, puis céda. Et un matin, dans l'igloo d'une famille, il y eut un petit esquimau de plus, brun, aux yeux pétillants. On ne s'étonna pas de cette arrivée. Les enfants esquimaux pouvaient se déplacer et séjourner dans une autre famille s'ils le souhaitaient. Pendant des semaines, le petit Toupidec fut docile, travailleur, aimable. Chaque membre de cette famille l'aimait. La mère l'adorait. Un jour, le petit Toupidec fit tomber l'escabeau sur lequel était assis un garçon qui l'embêtait. Le garçon dit « Toupidec, escabeau, escabeau, Toupidec, si tu es un Toupidec, cesse d'être un Toupidec, retourne au pays des Toupidecs. » Mais bien sûr, les paroles magiques n'eurent pas d'effet, puisque le Toupidec avait été transformé en petit garçon et non en escabeau. Le petit Toupidec n'avait pas été deviné. Alors, il recommença ses farces. Un jour, il était seul avec la mère qui nettoyait des poissons. Or, une tête qu'elle avait coupée avec sa hachette se retrouva au corps du poisson. La mère crut s'être trompée ou avoir rêvé. Elle coupa une autre tête qui se retrouva encore au corps du poisson. Alors elle dit « Toupidec, hachette, hachette, Toupidec. Si tu es un Toupidec, cesse d'être un Toupidec. Retourne au pays des Toupidecs. » Mais bien sûr, les paroles magiques n'eurent pas d'effet, puisque la hachette n'était pas un Toupidec. La mère continua de couper les têtes des poissons et de nouveau, une tête rejoignit le cœur d'un poisson. Elle vit le petit garçon, comprit, et commença. « Toupidec !» Les yeux de l'enfant Toupidec étaient fixés sur elle, suppliant, suppliant, suppliant. Alors, avec un regard très doux, très aimant, la mère dit très vite, « Toupidec, tête de poisson, Toupidec, si tu es un Toupidec, cesse d'être un Toupidec, retourne au pays des Toupidec. » Ces paroles magiques n'étaient pas pour lui. Le petit garçon était sauvé. Le petit Toupidec garçon resta parmi les hommes, toujours gentil, mais parfois encore farceur, comme le sont les petits garçons esquimaux et tous les petits garçons du monde. Au pied d'une montagne japonaise, il y a de cela bien longtemps, très très longtemps, serpentait une petite rivière. Deux voisins habitaient au bord de cette rivière. L'un habitait un peu plus en amont, on l'appelait le voisin d'en haut. L'autre, un peu plus en aval, on l'appelait le voisin d'en bas. Tous les deux étaient âgés, tous les deux étaient mariés, tous les deux étaient pauvres, aucun d'eux n'avait d'enfants. Leur différence consistait dans leur caractère. Ceux d'en haut étaient envieux, méchants, malfaisants même. Ceux d'en bas étaient aimables, gentils, serviables. Un jour, le voisin d'en haut s'aperçut qu'il n'avait rien pris dans le filet qu'il avait tendu sur la rivière, sauf des racines et des branches. Mais que le filet du voisin d'en bas était rempli de poissons. Il changea le contenu des deux filets. Le voisin d'en bas, lorsqu'il trouva les racines et les branches, ne fut pas déçu. Il prépara le bois pour son feu. Il commença par la racine de saule, très dure à couper. Mais à peine l'eut-il touchée que la racine s'ouvrit en deux et qu'un tout petit chien blanc en sortit. Les voisins d'en bas furent si heureux, si heureux. Ils le soignèrent bien, le petit chien. Le nourrir avec de la bouillie de mil et les plats qu'ils mangeaient eux-mêmes, lui donnèrent beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Le petit chien devint un grand chien, à la fourrure blanche et aux yeux intelligents. Un jour, le voisin d'en bas se préparait à partir au champ, quand le chien lui dit « Grand-père, n'allez pas au champ. Attachez une corbeille sur mon dos, prenez une pioche et allons au bois. » La grand-mère leur prépara des boulettes de riz et le grand-père et le chien partirent. Le chien portait la pioche et le repas et après le repas, il porta aussi le grand-père. Ils grimpèrent jusqu'au sommet de la montagne. Le chien renifla sous les arbres, renifla, renifla, et fit creuser sous le grand érable. Le grand-père trouva une grande cruche remplie d'or. Les vieux étaient fous de joie, et ils voulurent compter les pièces. À ce moment-là, la voisine d'en haut arriva pour demander du charbon de bois incandescent pour allumer le feu. Elle demanda aussi aux voisins d'en bas comment tout cet or leur était arrivé. Les voisins expliquèrent. La voisine repartit vite raconter cela à son mari. Son mari qui demanda qu'on lui prête le chien. Le lendemain, le voisin d'en haut partit avec le chien. Il s'assit sur le chien, il ne lui donna pas à manger, il l'insulta. Quand ils furent arrivés au sommet de la montagne, le voisin le harcela de questions. Le chien alors lui dit « Creuse-la !» Et le voisin d'en haut trouva un pot cassé plein de détritus. De rage, il tua le chien. Le lendemain, le voisin d'en bas vint chercher son chien. Il apprit que le voisin d'en haut l'avait tué. Il alla le chercher, l'enterra près de la rivière et planta une tige de saule sur sa tombe. Les voisins d'en bas allaient tous les jours sur la tombe du chien et ils virent la tige de saule devenir un saule majestueux. Un jour où le grand-père se reposait sous le saule, il entendit, ou il rêva, que le chien lui parlait. « Coupez le saule et faites du meilleur morceau de bois un mortier pour piler le riz. » La grand-mère lui conseilla d'écouter le chien. Ainsi, le grand-père fit un mortier. La grand-mère y mit du riz et commença à le piler. Mais plus elle pilait, plus il y avait du riz dans le mortier. Les voisins d'en bas étaient fous de joie. Ils savaient qu'ils avaient maintenant assez de riz pour l'hiver. À ce moment-là, la voisine d'en haut arriva pour demander du charbon de bois incandescent pour allumer le feu. Elle demanda aussi aux voisins d'en bas comment tout ce riz leur était arrivé. Les voisins expliquèrent. Elle repartit vite raconter cela à son mari, qui vint demander qu'on lui prenne le mortier. Le lendemain, le voisin d'en haut emporta le mortier. Sa femme y mit du riz et commença à piler. Mais plus elle pilait, plus le riz diminuait dans le mortier. Le voisin d'en haut, furieux, brisa le mortier et le brûla. Le lendemain, le voisin d'en bas vint chercher son mortier. Il apprit que le voisin l'avait brûlé. Alors, il ramassa des cendres et les emporta dans sa veste. Soudain, le vent se leva et dispersa les cendres. C'était l'automne, les arbres étaient dépouillés et les cendres se déposèrent sur les arbres nus, comme s'ils étaient des fleurs, comme s'ils étaient en fleurs. Le grand-père dit à la grand-mère, « Regarde, avec les cendres du mortier, j'ai fait fleurir les arbres. » La grand-mère lui dit, « Notre prince adore les cerisiers en fleurs. Tu devrais faire fleurir ces arbres. » Le grand-père prit la direction du jardin princier. Le prince y arrivait et interrogea le grand-père. « Qui es-tu ? » « Je suis le vieillard qui fait fleurir les arbres, » répondit-il. Puis, il lança des cendres et bientôt, tout le jardin fut en fleurs. Le prince était émerveillé et heureux. Il donna au grand-père un magnifique vêtement princier. Le grand-père pensa qu'il y avait assez de tissu pour faire un kimono aussi à la grand-mère. le grand-père revêtit le costume pour surprendre la grand-mère. Mais juste devant sa maison, il rencontra la voisine du haut, venue chercher du charbon de bois incandescent pour allumer le feu. Elle interrogea le grand-père. Il lui répondit : la voisine du haut partit en courant raconter cela à son mari. Le voisin d'en haut prit des cendres qui restaient et se rendit au jardin de la princesse. Quand elle arriva, il dit : je suis le vieillard qui fait fleurir les arbres. Je vais faire fleurir vos péchés contre de beaux vêtements. Il jeta les cendres autour de lui. Le péché resta nu. Mais un peu de cendre tomba dans l'œil de la princesse qui cria de douleur. Les serviteurs se précipitèrent, ligotèrent le vieux qui fut jeté en prison. Ici, depuis, la princesse ne s'est pas souvenue de lui. Il s'y trouve encore.